Allô, bonjour, je suis Céline, à Moëlan-sur-Mer, en Bretagne. Ça me fait bondir d'entendre que le nucléaire pourrait être écologique. Si on avait mis autant d'argent qu'on a mis dans le nucléaire pour trouver une solution pour l'énergie de la houle. La houle, c'est la rotation de la Terre, c'est permanent. Et les gens qui sont pro-nucléaire disent que les solutions écologiques ne sont pas permanentes. Alors évidemment, il y a eu l'usine marémotrice de la Rance qui a été un échec parce que les gens qui l'ont calculé n'ont pas compris que l'eau de mer, c'était pas comme l'eau des rivières, c'était pas de l'eau douce et donc elle coûte très cher en entretien à cause du plancton. Mais qu'on mette de l'argent autant qu'on en a mis dans le nucléaire et on trouvera une solution propre. Merci, à bientôt.
Bonjour, je trouve que dans votre émission, il y a un point qui n'a pas été abordé, qui est celui de l'économie locale. Dans une centrale nucléaire, il y a des centaines de personnes qui y travaillent, qui sont en couple, qui ont des enfants, qui font vivre une école, une boulangerie, un supermarché, des hôteliers, restaurateurs, ce qui n'est pas le cas avec les autres énergies, surtout du renouvelable, qui est piloté à distance depuis un bureau à Paris pour des installations situées loin de Paris, dans le Poitou, par exemple. Merci.
Non, mais il n'est pas possible, votre militant pro-nucléaire, là. Mais les experts, c'est eux qui ont prévu un EPR à 3 milliards d'euros. Et puis, on arrive à 19 maintenant. Alors, les experts, il faut aussi les regarder avec circonspection quand il s'agit du nucléaire.
Alain, à Marseille, je pense qu'il faudrait d'urgence faire un débat sur l'enterrement des déchets nucléaires à Bure. Et savoir notamment que font les autres pays nucléaires à ce sujet, puisque toutes les centrales nucléaires produisent des déchets. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Léo, je vous appelle de mer à côté de Saint-Laurent-des-Eaux, dans 41, et je vous appelle parce que c'est faux de dire que le nucléaire est une énergie décarbonée. Il suffit de imaginer que l'uranium, il n'y en a plus en France, et il faut bien le faire venir, et il vient en paquebot, il vient en camion, et ensuite les déchets se promènent en France jusqu'au lieu de stockage aussi en convoi, donc il y a du carbone. Sans parler évidemment du coût des centrales qui sont astronomiques, mais aussi je voulais préciser que pour construire une centrale, il faut énormément de béton, mais alors des quantités astronomiques qui lui aussi émet du carbone. Et donc le nucléaire, non, n'est pas une énergie sobre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Et au sommaire de ce club de la Terre au carré, un réalisateur, journaliste, restaurateur et agriculteur qui a décidé de nous faire bien manger. Nous plongeons dans une faille spatio-temporelle avec la série Il était une fois qui, plus de 30 ans après sa création, débarque sur Netflix. Et puis on découvrira un roman graphique consacré aux primates avec un dessinateur passionné par nos proches cousins. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Édouard Bergeon, Hélène Barillet et Aurèle. Bonjour.
Bonjour
à tous les
Bonjour.
Trois. Bienvenue. On va se retrouver dans un instant avec les messages qui arrivent sur la page de la Terre au carré, sur les réseaux sociaux et l'application France Inter avec les notes vocales. Et Camille Cronier est donc là. Bonjour Madame la Vice-Présidente.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Comme tous les vendredis, vous allez nous livrer votre moisson de bonnes nouvelles. Vous en avez trouvé ?
Ah, des bonnes nouvelles, des curiosités. Il y aura du domaine de grignon, de la mangouste, du crabe, des arcs-en-ciel et même du Beethoven au programme.
Eh bien, on prend. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestara et préparée aujourd'hui par Colin Gruel et Chantal Le Montagnier avec à la technique Anne-Laure Cochet.
Mathieu Vidal. La Terre au carré. Sur France Inter.
Avec un premier tour de table pour faire connaissance avec nos invités et leurs sujets, Édouard Bergeon commencera avec vous. C'est vous l'homme aux multiples casquettes. Vous publiez aux arènes Cultivons-nous bien manger avec les paysans d'aujourd'hui. C'est quoi d'ailleurs être paysan finalement aujourd'hui au sens où vous l'entendez ?
Ben c'est nourrir, nous nourrir tous les jours, c'est entretenir les paysages et puis c'est préserver notre belle planète Terre parce que les premiers écologistes, on n'y pense pas vraiment, mais ce sont eux. Ils sont météo-clés dépendants, ils travaillent entre le ciel et la terre et ils créent de l'eau, de l'air Ils remplissent notre assiette trois fois par jour.
Ouais. Et on va parler de ce livre donc, qui a pour ambition, c'est vous qui l'écrivez, de relier la ville et les champs. Hélène Barillet, si vous saviez comme nous sommes heureux de vous recevoir cet après-midi
et
pour parler
donc
de cette série « Il était une fois » qui, comme une petite madeleine, est là dans notre mémoire d'enfant. Cette série a été créée par votre mari, Albert Barillet, et elle est toujours bien vivante, hein, puisque je le disais, ça débarque sur Netflix, c'est ça ?
Ça débarque sur Netflix, c'est continuellement présent sur France 4. On est très très contents.
Ouais. Ça fait combien de décennies, là, maintenant ?
Eh bien, écoutez, Il était une fois l'homme, avec sa toccata, est sorti en 1978.
Ouais, ouais, donc ça, c'est ma génération. On va l'écouter tout à l'heure. Et il y a la génération de Camille.
Moi, je suis la vie. Moi, j'arrête pas de chanter les petits
Moi, j'ai tout vu aussi. Hein.
Ah,
ouais. Et Aurèle aussi, ouais. Et Edouard Bergeon.
Tout vu, mais c'était une fois la vie. Et puis, toutes les déclinaisons.
Et voilà, on entendra les génériques, hein, les différents génériques avec vous tout à l'heure. Et puis, vous nous raconterez l'histoire de cette agression. Et je suis sûr que les auditeurs ont des témoignages autour d'Il était une fois. Et vous pouvez nous envoyer vos messages dès maintenant. Aurèle, vous êtes l'auteur de ce roman graphique Singe, qui paraît chez Futuropolis. Alors, c'est une grande enquête avec des spécialistes, des philosophes, des primatologues, évidemment, que vous avez suivi pour parler donc de nos cousins primates. Mais pour répondre au fond à quelle question ? C'est quoi le fil de cette enquête, alors ?
Ah bah, la question, je ne savais pas quelle était la question au début quand je me suis lancé. C'était juste une envie. J'ai suivi une envie d'en savoir plus sur ces animaux qui me passionne depuis que je suis tout petit.
Ouais.
Et donc j'ai vraiment, c'est rigolo parce que Baptiste Morisot dans l'introduction parle d'improvisation. Alors,
oui,
qu'on s'était pas consulté.
En parlant de jazz. Hein.
Et en parlant de jazz, je suis passionné par ailleurs de jazz. Il ne le savait pas. Mais c'est comme ça que j'aime bien travailler aussi. C'est-à-dire que je me lance dans le sujet, puis je vois au fur et à mesure qu'est-ce qui s'offre à moi et comment avancer.
Eh bien, nous allons découvrir donc ce roman graphique avec vous dans la dernière partie de l'émission. Je suis sûr qu'il y a eu un épisode sur les primates dans Il était une fois, non ?
Il était une fois l'homme, deuxième épisode.
Évidemment, deuxième épisode, donc tout va bien. Il y a les DVD, il y a les livres, il nous a fallu un caddie hein, pour apporter tout ce qui sort autour d'Il était une fois. Et puis bien sûr, tous les livres dont nous parlons sont en lien sur le site de la Terre au Carré. Monsieur Doumani, et comme Camille, vous parlez grec couramment, vous allez nous donner le titre.
C'est pas sympa. C'est Alavros Tichotis, et je vous signale que j'avais fait grec en troisième et tout ça. Là.
Ouais, ouais, bravo. Non, moi j'ai pas réussi à
Camille
le faire.
Camille Mera.
Félicitations.
La Terre au Carré. Sur France Inter.
Bonjour à tous, je m'appelle Edouard Bergeon, je suis le réalisateur du film Au nom de la Terre. Aujourd'hui, je suis à Martran, dans le sud de la Vienne, là où tout a commencé. Les champs que vous voyez derrière moi, c'est la terre que mon père à travailler. J'ai grandi ici et je suis ici pour une bonne raison, c'est que je veux vous proposer un nouveau projet qui me tient à cœur. Ce projet, c'est une nouvelle chaîne thématique consacrée à l'agriculture, au bien manger et à la transition écologique. Merci pour votre soutien et on se retrouve dès maintenant sur Cultivons-nous. TV.
Voilà, et on a le vrai Édouard Bergeon en studio cet après-midi. Ça, c'était pour le lancement donc de la chaîne. C'était
la chaîne sur abonnement il y a un an et demi pendant pendant le premier confinement.
Exactement. Vous avez combien d'abonnés d'ailleurs ?
Plus de 70 000.
Vous êtes content ?
Plus que content. Les planètes se sont alignées. On vient d'entrer sur la télé d'Orange, sur Prime Video, demain sur Free, peut-être Bouygues. Et encore mieux, depuis quelques semaines, on entre dans les CDI des lycées agricoles.
Ouais. Et alors justement, qui sont vos abonnés ? Principalement des paysans ou pas du tout ?
Eh ben non, en fait. Faut juste revenir en arrière. Mon film a fait 2 millions d'entrées, 115 000 seulement à Paris. On parlait du fossé, il est là.
Votre film Au nom de la Terre.
Au nom de la Terre. Et de avec multiples débats que je fais dans toute la France, 120. Et puis je me rends compte qu'il y a vraiment un manque de connaissances et qu'il faut apporter des outils de la pédagogie pour comprendre qui nous nourrit, en fait. On crée cultivons-nous.tv. Et qui sont aujourd'hui les abonnés ? Ils viennent de partout et 25% de Paris.
Ouais.
Donc le film c'était 10%, c'est-à-dire qu'on a plus que doublé.
Mm-hmm.
La moyenne d'âge est entre 20 et 45 ans.
Ouais.
Pour à titre indicatif, la moyenne d'âge sur France Télévisions c'est plus de 60 ans. Et 48% sont des femmes.
Ouais.
Donc j'ai envie de dire ça démarre plutôt pas mal.
Il y a un effet confinement selon vous justement sur ces changements de vie dont on a tant parlé et qui se sont vraiment concrétisés hein, pour certaines personnes qui ont choisi de quitter la ville par exemple pour devenir paysan.
On a tous eu peur, je crois. À ce moment-là, on a tous vécu une période inédite. On a eu peur pour notre santé. On le disait tout à l'heure avec C'était une fois, on est ce qu'on mange. Donc, on a mangé tous ensemble, on a cuisiné, on s'est retrouvés, on a passé du temps ensemble. Les seuls commerces qui étaient ouverts étaient les supermarchés, les marchés. Donc, on est allé faire le marché. Les journalistes sont allés faire le marché, les leaders d'opinion. Et puis, on s'est demandé d'où ça venait, tous ces produits. On a retourné les étiquettes. Et puis, on s'est dit qu'on allait essayer de bien manger. Il y a eu l'effet mode, hein, mais il en est resté quelque chose quand même.
Des circuits courts par exemple. Hein,
on s'est rendu compte aussi qu'ils ont, pendant ce Covid, avec les frontières fermées, il manquait plus de 200 000 bras, enfin paires de bras, pour ramasser les légumes, les fruits, et que on n'avait pas une grosse autonomie en fait, et qu'on avait peut-être un peu perdu des... Il peut y avoir quelque chose, la désagriculturisation de la France, comme il y a eu la désindustrialisation de la France. Faut faire attention. Faut peut-être relocaliser quand même beaucoup de choses.
Justement, c'est un hommage au métier aussi, hein, ce livre, puisque donc il y a la version éditée, là, qui paraît chez aux arènes. Cultivons-nous, bien manger avec les paysans d'aujourd'hui. Alors, c'est vraiment un livre multiforme, on pourra le décrire. Mais il y a ces portraits de paysans qui sont extrêmement intéressants, parce qu'il y a leur quotidien que vous décrivez. Et justement, un des problèmes aujourd'hui du renouvellement des générations, c'est qu'on voit que c'est un métier hyper difficile.
Vieillissant.
Vieillissant, mais hyper difficile au quotidien et très mal payé. Donc comment on résout ce problème-là ?
Nous tous, déjà, on vote trois fois par jour, on mange trois fois par jour. Donc on a moyen, nous consommateurs, de faire attention à ce qu'on mange, d'où ça vient. On parle de local, de circuit court, c'est très bien. Déjà, mangeons français et puis dans la mesure du possible, de saison et local. On a tous, pour ceux qui le peuvent, en tout cas qu'on ont les moyens de mettre un petit peu plus d'argent dans notre panier. Et oui, c'est ce qu'on raconte dans Cultivons-nous, le livre. C'est beaucoup de solutions pour justement raccorder le champ à l'assiette. En fait, c'est un livre où je parle de la terre, de ceux et celles qui nous nourrissent, et de tous ceux qui font bouger la bouffe, l'assiette.
Mais vous dites pour ceux qui en ont les moyens, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas se payer l'alimentation
dont vous parlez.
Non, mais
en tout cas, on peut essayer de mettre un peu plus d'argent pour faire l'effort de manger encore un peu mieux.
Il y a des Français qui ne peuvent pas le faire, hein, concrètement.
Oui, mais alors déjà, cuisinons. En fait, ça s'appelle. C'est une injonction, comme Cultivons-nous, c'est une saine injonction. À un moment donné, on se rend compte que les plats les plus dégueulasses, désolé, mais ce sont ceux qui sont déjà cuisinés, qui sont riches enfin, les produits, les matières premières sont mauvaises.
Vous parlez des produits ultra transformés,
oui. Enfin, moi, quand je vois des fruits déjà découpés, emballés dans du plastique, je suis désolé, on peut aussi acheter des fruits de saison et qu'on lave et qu'on mange. Mais en tout cas, cuisinons, on peut quand je dis pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est pour faire remonter le budget d'alimentation, en tout cas. Mieux payer les producteurs de lait, par exemple, c'est 4 euros par an et par personne pour qu'ils en vivent.
Le lait, c'est la première production animale en France, hein, c'est ça ?
C'est la première production, il y a la viande également. Mais on a tous moyen de faire bouger les choses. C'est ce que je raconte dans ce livre, c'est un livre de solutions en fait. Je suis pas là pour donner les bons points ou les mauvais points. Moi, mon but, c'est de créer des vocations, en fait, de se dire que l'agriculture, c'est un métier innovant, c'est un métier pour les jeunes, et c'est le métier de demain. Je pense que la campagne est le refuge de demain, déjà.
Ouais.
Comment vous répartissez votre temps, vous, du coup? Parce que, donc, effectivement, on le disait, vous êtes multicasquette. Est-ce que vous travaillez la terre régulièrement?
Alors, dans la casquette restaurateur, on a notre propre maraîchage sur les bords de Loire, à Cosne-sur-Loire, avec mon associé. Donc, on décide de ce qu'on met ou pas dans la terre. Après, je ne suis pas plus agriculteur, même si j'ai mon BPREA, ce qui est mon bac pro agricole. Mais je suis tous les week-ends quasiment dans les fermes. J'étais dans le Cantal il y a 3 semaines chez des éleveurs. J'étais la semaine dernière à Cosne-sur-Loire justement, parce que je ne veux pas perdre ce lien. Et puis j'en ai besoin. J'ai besoin d'être dans la campagne. Je fais du vélo en plus, donc je fais du cyclisme.
Vous avez toujours fait attention, par exemple, à ce que vous mangiez.
Je cuisine matin, midi et soir.
Oui, mais même dans le passé,
J'avais mon jardin potager que je cultivais, et je vendais les légumes quand j'étais gamin à mes parents. Oui. Alors j'allais voir dans le supermarché d'à côté combien ça coûtait, et je rajoutais 2 francs par kilo parce que c'était en circuit court et c'était bio. Donc c'était une manière d'apprendre la valeur des produits et puis de bien manger. Oui. Quand on a des parents et des grands-parents agriculteurs, il se trouve que oui, la ferme, on est éduqué à bien manger. Donc j'essaie d'y faire attention en tout cas.
Au nom de la Terre, c'était justement un film en hommage à votre père. Guillaume Canet était l'acteur principal. Ça racontait donc cette histoire d'un épuisement au travail. On en écoute un extrait.
Arrêtez dans la merde. Qui t'a dit ça? Tout le monde le sait. Non mais j'ai pas besoin d'aide. L'intelligence, ça refuse pas un coup de main. Alors, regarde-moi sa tête à celui-là. Regarde-le. T'en es fier? Bah comment tu pourras en être fier? Moi, de mes moutons, j'en étais fier.
Tes moutons, tu veux qu'on en parle de tes moutons piqués aux antibios? Et tes veaux gonflés aux hormones? C'est avec ça que tu t'es payé tes terres et ta baraque? Tu étais jusqu'au cou dans le système? Et maintenant, viens pas donner des leçons!
Je l'ai fait parce que j'avais décidé de le faire. Moi, au moins, j'étais libre!
Mais qu'est-ce que tu veux, en fait? Hein, qu'est-ce que tu cherches?
Arrête, Pierre.
Qu'est-ce que tu cherches?
Arrête.
Viens pas faire chier chez moi! Dégage!
Et oh, oh!
Pars-toi!
Dis donc, tu vas encore t'encoller une!
Dégage! Dégage d'ici!
Voilà, c'est vraiment l'histoire de votre père, ce film.
Ah, si je vous raconte la vraie histoire, c'est pire. Vous savez bien, ouais. La réalité est toujours pire que la fiction. Mais oui, c'est très inspiré de mon histoire. J'ai raconté un film sur 3 générations avec le rôle du grand-père, mon père et le mien. Une génération qui construit une ferme pendant les 30 glorieuses, où ouais. On est dans une économie de production, où le travail paie, où les fermes s'agrandissent parce que l'État demande, il y a un plan Marshall pour nourrir la population. Et puis ça va plutôt bien. Et puis après, il y a une génération qui arrive au cours des années 90, 2000, on passe dans une économie de consommation. Hein. Mmh. Et là tout change. Et ça, c'est la génération de mon père. Donc, c'est la génération qui reçoit cette terre. Et puis, moi, il y a la mienne qui est restée ou qui est partie comme moi. Et je raconte dans ce film quel a été le prix à payer pour tout ça. Ouais. Mais c'est ça, on est dans l'agriculture particulièrement. Il y a cette notion d'héritage, de transmission, donc de culpabilité quand on n'y arrive pas. On a des outils qui sont lourds, de la terre, du bâti, des animaux, et puis il y a 1, 2, 3, 4, 10 générations. Moi, c'est depuis tout le temps on est agriculteur dans la famille.
Et puis un événement qui a été hyper marquant évidemment, c'est l'incendie de la ferme. Hein.
Alors dans le film, je raconte un incendie. Nous, chez nous, il y en a eu 2. C'est pour ça que je vous dis que c'est encore pire. En l'espace de 10 ans, des incendies accidentels à cause du chauffage. Et là, moi, je suis à dessous avec mon père à l'époque. Il me prend la main, il me dit arrête. Il y a 25 ans de son travail et toute sa vie, en fait, qui s'en va en fumée en 10 minutes. Donc là, à un moment donné, comment vous voulez pas péter les plombs? Sachant que c'est un métier. Nous, c'était du chevreau d'engraissement principalement, qui partait à l'export en Italie. La lyre se casse la gueule quelques semaines avant de tout exporter. On a travaillé pour rien. On avait des employés, si on a fait du social. On a payé des charges, on a contribué à toutes les dépenses publiques, mais nous on a travaillé pour rien. Et c'est ça aujourd'hui qui crée beaucoup de mal-être dans l'agriculture, c'est qu'il y a une grande partie des éleveurs notamment qui gagnent pas leur vie. Alors vous rajoutez à ça des contraintes administratives, et puis aujourd'hui un jugement qui est compliqué de la population, parce que c'est pas qu'il n'est pas sincère ce jugement. Parce que quand on revendique des choses, on est tous sincères, sauf qu'à un moment donné, d'où on parle. Quand on ne connaît plus l'agriculture, quand on n'a plus de racines liées à la terre, c'est compliqué de dire à des agriculteurs qui sont là depuis des siècles, il faut faire ci, il faut faire ça.
Mais il y a une vraie ingratitude, selon vous, aujourd'hui, de la part de nous, les consommateurs.
Complètement.
Hélène Barrier, je vous vois réagir, acquiescer à ce que dit Édouard Bergeon.
Ah ben moi, j'ai des racines percheronnes et surtout fermières. Mon père avait une ferme et il se battait à l'époque déjà pour qu'on conserve le bocage, les haies, etc., pour la biodiversité, pour le respect de l'environnement, et puis pour il avait un autre métier à côté, mais Mais la ferme, la terre, c'est tellement important pour nous tous, quoi.
Pourquoi justement vous ouvrez votre livre, Édouard Bergeon, sur les fermes high-tech, les innovations technologiques? J'ai trouvé que c'était un choix assez intéressant, en tout cas à discuter, parce qu'on parle justement de terre, et vous embrayez tout de suite sur le high-tech.
Mais là, je reviens d'un congrès pendant deux jours de grandes marques de matériel agricole, l'agromachinisme, où il y a énormément de fils d'agriculteurs d'ailleurs, et puis des concessionnaires de matériel agricole. Ils sont très très en avance. On travaille avec des nouvelles technologies qui remplaceront peut-être un jour, peut-être à 100%, ou en tout cas on espère beaucoup, la chimie par exemple, avec des lasers et des choses qui font, avec des drones qui font qu'aujourd'hui...
Mais ça, vous savez que ça fait, pardon je vous interromps, mais vous savez que ça fait un peu débat, parce qu'il y a certaines, il n'y a pas longtemps on avait parlé de ce gros campus, notamment détenu par Xavier Niel, Hectare, qui est un campus très high-tech, qui promeut, il y a des agriculteurs même qui disent, des paysans, en fait bientôt on passera plus de temps derrière nos écrans d'ordinateur que...
Mais c'est déjà le cas, hein. Si vous montez une moissonneuse ou un tracteur...
Est-ce que c'est une bonne direction selon
mais
vous?
On n'a pas le choix, à un moment donné, c'est l'innovation qui nous sortira, mais pas que de l'agriculture. Quel pays va aller vers la décroissance? Aucun. Tous les pays ont besoin de croissance, tous les pays ont besoin de payer leurs charges. Alors là, on est dans de la politique. Mais l'innovation, vous n'avez pas un téléphone? Vous ne faites pas vos courses par Internet? Vous commandez rien sur Internet? Vous n'allez pas au supermarché? La tech, elle est là, et il y a de plus en plus de start-up, d'innovation, et la France est très innovante. Et il y a beaucoup de jeunes qui se tournent vers l'agriculture. Et c'est en ça qu'il faut attirer aussi la jeunesse et des énergies vers cette agriculture innovante.
Alors, des portraits, évidemment, dans ce livre « Cultivons-nous », celui d'une jeune femme, Émilie Jeannin, qui a créé le premier abattoir mobile en France. Ça, c'est intéressant. Le bien-être des animaux, c'est un sujet qui fait aujourd'hui un retour en force au sein du monde paysan.
Oui, sûrement que le monde paysan a loupé le bien-être animal ces dernières années. Les organisations professionnelles agricoles ont sûrement dû louper quelque chose, et la société, la demande sociétale aujourd'hui est bien plus en avance que ce qui se passe en agriculture. Non pas que les agriculteurs n'aiment pas leurs animaux, je ne connais pas d'éleveurs qui n'aiment pas ces animaux, même si certains peuvent être les brebis galeuses de l'agriculture, ça arrive toujours. Mais quand Émilie se bat pour l'abattoir mobile, elle est dans le livre, c'est pour apporter du bien-être à l'animal. Alors c'est toujours compliqué cette notion-là de pouvoir élever ces animaux, de les faire naître et ensuite de les abattre. Mais c'est le contrat social qu'on a avec les animaux depuis des siècles. On les traite bien, on les nourrit bien, ils créent de la biodiversité, ils sont essentiels pour nos paysages, et à un moment donné, ils nous nourrissent. Donc elle s'est battue pour que l'abattage vienne à la ferme, qu'il n'y ait pas de transport, et puis qu'on ait une viande de qualité, qu'on crée de la valeur pour l'agriculteur et pour le local.
Aurel, vous avez déjà dessiné sur le monde de l'agriculture ou pas? Parce que là, il y a une BD justement dans le livre autour de Monsanto. Alors, je sais pas si
il y a deux BD, il y a deux romans graphiques.
Je sais pas si ça peut vous inspirer.
J'ai dessiné dans la presse, oui, et beaucoup autour des questions agricoles. Et voilà, j'ai pas fait de bande dessinée spécialement autour de ça. Il y en a une qui existe sur les questions qui me font penser à votre film sur
les algues vertes.
Voilà, sur le piège. Le piège de la politique d'État, des coopératives qui grossissent et qui en demandent toujours plus, et de l'endettement, etc. Ouais. Donc il y a des choses qui existent. Non, moi j'étais un peu interrogatif sur la question du développement des technologies, parce que c'est un discours qu'on entend aussi sur plein d'autres domaines. Je sais pas si cette course en avant est forcément la seule et la meilleure des optiques, et je sais que notamment qu'il y a des sociologues et des chercheurs qui travaillent sur l'innovation par retrait, et justement comment faire mieux avec moins, et comment justement ne pas... J'ai un peu l'impression parfois qu'on est dans la même démarche, alors pas avec les mêmes produits, pas avec de la chimie, mais finalement avec le même emballement sur des nouvelles technologies et en reproduisant un peu les mêmes erreurs.
Il y a un sujet, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des hommes et des femmes qui viennent travailler sur la terre aussi.
C'est ça. Il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir dans les 10 ans.
Donc pourquoi il y a de la technologie? Pourquoi les machines sont de plus en plus grosses? Parce que il y a une désertification des campagnes. Il y avait la moitié de la population active agricultrice à sortir de la guerre. Aujourd'hui, c'est 1 à 2%.
Non, mais c'est donc, évident que c'est un problème global.
Donc dans les désidératas de la société moderne, est-ce qu'on a envie de travailler plus 35 heures? Est-ce qu'on a envie d'aller vivre au fin fond de la campagne? C'est pas avoir une villégiature à la campagne, là, c'est travailler tous les jours, la terre est basse, on est météo et climato-dépendant, donc voilà, c'est pour ça que ce livre n'est pas un jugement, mais en tout cas c'est des solutions, et c'est ce qu'exprime très bien, on parlait de roman graphique, c'est Enzo qui a fait ce premier roman graphique sur le combat de Paul François, qui est l'agriculteur qui s'est battu contre Monsanto après avoir été intoxiqué par un produit. Moi je l'ai suivi en ayant fait 3 documentaires sur lui, et il va faire l'objet d'ailleurs de mon prochain long métrage de cinéma.
Très bien. Donc, eh bien, on pourra le découvrir donc en lisant ce livre. Cultivons-nous. Il y a aussi des recettes à la fin de cuisine.
Enfin, il faut bien manger quand même.
C'est très éclectique et ça paraît aux éditions Les Arènes. Vous restez avec nous, Édouard Bergeon.
France Inter. La Terre au carré.
14h29, Camille passe au vert avec le vendredi, un tour des curiosités, des bonnes nouvelles.
Et la première date du début de semaine, lundi, avec ce communiqué de la préfecture des Yvelines intitulé, Mathieu...
Domaine de Grignon, une nouvelle procédure de cession sera lancée au second trimestre 2022.
Second semestre 2022. L'État renonce à vendre ce domaine où sont formés depuis 200 ans, oui, 200 ans, les ingénieurs agronomes. L'institution royale agronomique en 1826, l'école agro-paritech aujourd'hui, mais qui, dès la rentrée prochaine, déménagera sur le plateau de Saclay pour rejoindre un grand pôle de recherche. Le campus était donc à vendre et c'est un promoteur immobilier qui avait remporté la mise au cœur de l'été malgré la mobilisation et le blocus par les étudiants mais aussi les enseignants-chercheurs qui craignaient la privatisation. Ils avaient d'ailleurs continué de manifester en septembre dernier comme Iseux, clané en deuxième année aujourd'hui soulagée mais prudente.
Ce qui était dit c'est qu'on était trop contents et contentes. Notre mobilisation a servi et c'est incroyable. Mais c'est pas du tout fini et il va falloir être encore plus vigilant et vigilante.
Vigilant au sujet du prochain projet, le meilleur possible, a tweeté Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture et ancien élève d'AgroParisTech en promettant un temps de concertation. Les gardiens du domaine de Grignon ne veulent pas qu'on en fasse n'importe quoi parce qu'ils y tiennent. À l'image de Mathieu Baron, passé par là, lui, pour ses études il y a 10 ans, il est aujourd'hui délégué général de l'association et du projet Grignon 2026.
Grignon, c'est un peu le château d'Harry Potter, faut imaginer. 350 étudiants qui se retrouvent, qui découvrent dans un domaine somptueux avec un château Louis XIII, des forêts, des terres agricoles, une société hippique avec l'amour de la biologie comme dénominateur commun. Il y a une dimension affective dans ce site-là qui fait que on veut garder ce domaine et surtout on veut qu'il reste un bien public. Pour nous, c'est ça le plus important. On veut pas que ça profite au bien de quelques-uns, mais vraiment l'ouvrir au maximum à l'ensemble des habitants du territoire déjà et plus généralement à tous les Franciliens.
Réponse donc au deuxième round à partir du printemps prochain. Alors ce n'est pas un oiseau qu'on entend, mais des mangoustes. Et les conflits, elles, eh ben, les règles comme ça. En mode parle à ma main, oui, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas la référence, qu'elles ignorent royalement les membres les plus agressifs du groupe. Résultat d'une étude de l'université de Bristol menée sur des mangoustes naines, Elogale parvula, qui explique l'auteur principal, Amy Morrison Drake, identifie les brutes à partir des vocalisations pendant les disputes, au moment des repas, puis plus tard au moment du coucher et de la toilette mutuelle. Ne les calcule pas, mais alors pas du tout, même s'il s'agit de leurs aînés. Information relayée par le génial site Gourmet, hein, ouais. Qui nous apprend aussi que nos goûts musicaux varient au fur et à mesure de la journée. Musique forte le matin, rythmée en début d'après-midi, très dansante le soir et calme la nuit. Alors, petit test, celle-là, vous la mettriez dans quelle case ?
Oh bah ça, c'est pour se réveiller le matin.
Oui, je sais pas, Beethoven, difficile à dire.
Bah oui, après, voilà.
Beethoven, en tout cas, dont certains ânes sont fans, nous dit l'agence France Presse. Les ânes qui ramassent les ordures de la vieille ville de Mardin en Turquie, il n'y a qu'eux qui arrivent à passer dans certaines petites rues. Le responsable du service propreté explique qu'ils leur ont installé de la musique et que chaque soir, pendant une heure ou deux, ils leur passent du classique ou de la musique folklorique. Et leur préféré, donc
Beethoven.
Très musicale hein, cette chronique aujourd'hui, n'est-ce pas ? Alors j'aurais pu aussi vous passer Somewhere Over the Rainbow pour vous dire que c'est à Hawaï qu'on voit le plus d'arc-en-ciel dans le monde, grâce au combo gagnant, hein, pluie, vent et relief. Et en France, eh ben, c'est à Clermont-Ferrand qu'ils sont les plus nombreux, en raison notamment de l'effet de Fun, phénomène météo de la rencontre vent chargé de pluie et montagne. Enfin, ça se passe en ce moment sur l'île Christmas, l'île Noël, oui, en Australie.
Mating season for millions of red crabs.
Voilà la migration annuelle des crabes rouges. Les images sont impressionnantes hein. À chaque fois. Des millions de crabes, oui, des millions, une femelle pouvant pondre jusqu'à 100 000 œufs. Qui quitte la forêt pour l'océan à la saison humide, 10 routes fermées et des ponts spéciaux construits pour qu'ils passent tranquilles en toute sécurité.
Voilà le journal des bonnes nouvelles du vendredi et nous dans un instant on aura un autre petit air classique que vous connaissez bien et qu'on vous fera entendre, je pense que nous l'avons, c'est Jean-Sébastien. Voilà.
Et ça, ça va faire plaisir à toute une génération de jeunes téléspectateurs. Avec Il était une fois, ce sera notre prochain sujet dans ce Club de la Terre au Carré.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas.
Et c'est le retour de Stromae sur France Inter avec Santé.
La Terre au Carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Hélène Barillet, vous êtes la présidente de la société Procidis qui produit justement les séries Il était une fois, dont votre mari Albert Barillet était le créateur. Alors on a entendu tout à l'heure la toccata de Bach hein, qui a vraiment bercé la première génération finalement d'Il était une fois.
Oui, dès 1978.
Donc c'était Il était une fois l'homme.
Oui.
Et il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres génériques en fonction des thématiques, comme par exemple Il était une fois l'espace. Michel Legrand.
Première collaboration entre les deux hommes, oui. Absolument.
Et la voix Jean-Pierre Savelli,
oui.
le chanteur de Peter et Sloan. C'est lui qu'on entend là-dedans. Et encore un autre générique pour faire plaisir à Camille.
Bah oui.
Il était une fois la vie.
Attention.
En France, là. Voilà, ça c'est la génération Camille Cronier, Édouard Bergeon. Et Aurel aussi.
Des années 80. Et ça, c'est la musique qui va vous rester dans la tête toute l'après-midi.
Bien sûr. Je vais aller en revoir, moi. Je vais les refaire, là.
Ah, il y a de quoi faire. Il y a tout ce qu'il faut, là. Tout est ressorti en DVD, par exemple.
Tout
en
est
plus
restauré.
De ce qu'on peut voir à la télé et sur Netflix. Hein.
Ah oui, sur Netflix, sur plateforme, on peut.
Exactement.
Sur France 4, notre chaîne historique.
Ouais. Tout a été restauré. Il y a eu un gros travail de restauration
ça y est,
à faire.
On a tout restauré.
Parce que les premiers épisodes étaient un peu fatigués, c'est ça?
Mais c'est-à-dire que oui, on était en 4 tiers. C'était de la SD et les télévisions ne pouvaient plus diffuser ces images et quand je me suis retrouvée seule à la tête de Procidis, je me suis dit je peux pas laisser ça comme ça.
Mais c'est un trésor quoi. Vous avez un patrimoine incroyable.
C'est un bonheur et c'est génial d'avoir des gens aussi comme vous autour de la table.
Mais tout le monde ici. Il y a des messages d'auditeurs aussi,
Camille. Mais bien sûr, on a Céline qui nous écrit « Il était une fois la vie, toute mon enfance, maintenant celle de mes enfants de 3 et 7 ans qui adorent également. » Laetitia nous écrit aussi « J'ai grandi avec les séries, il était une fois. Aujourd'hui, je partage encore de beaux moments en les regardant avec mon fils de 7 ans dont la curiosité est sans limite.
» Comment votre mari a eu l'idée de cette série alors?
Ah, écoutez, l'idée de cette série, d'abord, il avait plein d'idées et tout petit, je crois, il avait décidé qu'un jour, il raconterait l'histoire de l'humanité, l'histoire des infiniment petits et les infiniment grands.
Ouais.
Alors, l'infiniment petit, c'était la vie, et puis les infiniment grands, c'était l'espace. Et puis, il avait aussi quelque chose comme une revanche à prendre sur la vie. Il avait dû arrêter l'école à 14 ans parce que ses parents n'avaient pas assez d'argent pour lui payer des études. Et il n'a eu de cesse de prendre sa revanche sur cette situation parce qu'il était sûr qu'il aurait fait des super études. Et en fait, les études, il les a faites lui-même. Il a lu. Et comme il était visionnaire, il a compris que la télévision, c'était l'avenir. Et il a fait des programmes dits intelligents pour cultiver les enfants gratuitement.
Eh ben, on va entendre sa voix justement glaner sur Facebook et sur France Culture. André Barillet, donc le créateur. Albert Barillet, pardon, le créateur d'Il était une fois.
L'image peut et doit véhiculer le savoir et de préférence sans distiller l'ennui. Et c'est ce que nous essayons de faire. L'image peut aussi fustiger l'intolérance, la bêtise.
Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours été passionné par les origines de l'homme, les infiniment petits, les infiniment grands. Cela a donné Il était une fois l'homme, Il était une fois l'espace, Il était une fois la vie, Il était une fois les Amériques.
Les gens responsables se doivent d'alimenter de façon utile les jeunes cervelles où tant de cases restent à remplir. Et si de plus nous parvenons à rassembler autour du poste les parents et enfants et contribuer au dialogue entre eux, alors mon vœu sera exaucé.
Bah, c'était largement exaucé, hein, Hélène Barillet.
Ah,
au-delà de ses espérances, probablement.
Au-delà de ses espérances, tous les jours, je suis fière pour lui. J'imagine le bonheur qu'il rencontrerait. Ouais.
Et puis ça reste vraiment, enfin, on le disait, c'est devenu culturel. Il y a quand même... Tout le monde connaît Il était une fois aujourd'hui et tout le monde se rappelle surtout. Enfin moi qui regardais, on le disait, Il était une fois la vie. Encore aujourd'hui, je disais tout à l'heure quand je me coupe, j'imagine les petits globules là qui sont en train de se remettre en place derrière la coupure, etc. C'est-à-dire c'est des choses qui restent, même si je sais plus exactement les précisions. Termes. Mais en tout cas, c'est des choses qui restent. Est-ce que ça, c'était vraiment le but, comme il le disait, de pouvoir transmettre?
Ah, c'était le but, c'était de transmettre effectivement, mais à aucun moment il n'a imaginé le phénomène que ce serait, parce que c'est comme ça en France, mais c'est comme ça aussi dans de nombreux pays à l'étranger, jusqu'en Israël.
Il y a eu plus de 150 pays qui ont repris...
Plus de 100 pays.
Plus de 100 pays. Voilà, mais c'est déjà énorme.
Hein. Oui, Aurèle,
vous, évidemment, en tant que dessinateur, sont les dessins qui vous ont marqué.
C'est surtout que je viens d'apprendre, quand on discutait tout à l'heure, qu'il n'était pas lui-même dessinateur. Donc le coup de génie, c'est aussi le choix du dessin pour raconter tout ça. Parce que, comme on le disait, ça serait pas possible de le diffuser 40 ans après si ça avait été de la prise de vue réelle avec les moyens techniques des années 70. Et en plus, tout ce qu'on peut raconter grâce au dessin, enfin ce que disait Camille, sur on se coupe le doigt, on a les images là des brouettes de globules rouges qui prennent des atomes de fer pour les transporter, enfin tout ça, ça passe par le dessin et il y a que le dessin qui peut raconter ça, donc c'est une vision phénoménale de quelqu'un qui ne dessine pas, de se dire je vais raconter tout ça et je vais passer par le dessin pour le raconter.
Et un personnage central, Maestro quand même,
hein,
parce qu'on peut pas ne pas le citer et on ne peut pas ne pas se souvenir de la voix de Maestro, celle de Roger Carrel.
Nous voici donc en 2033, et avant la petite exploration promise, je voudrais encore vous demander qu'y a-t-il de changé dans vos vies par rapport à il y a 25 ans?
Les forêts sont devenues réserves mondiales. On ne coupe les arbres qu'en quantité contrôlée. Et attention, avec obligation d'en replanter d'autres.
On respecte les rivières et les mers sont redevenues propres.
Il était une fois notre terre qui a été diffusée à partir de 2008. Sur l'écologie, là, pour le coup, c'était
Absolument. Sur le développement durable.
Ah oui.
Et le développement durable, c'est tout ce qu'on doit faire pour pouvoir continuer à tenter d'avoir une vie harmonieuse sur Terre et durable.
Votre mari était écolo dans l'âme?
Écolo, mais depuis le début.
Ah, c'est vrai?
Oui.
Donc, bien avant nous tous.
Dans Il était une fois l'homme, je dirais qu'il y a la preuve, parce que dans le dernier épisode d'Il était une fois l'homme, il prévoit la situation un peu catastrophique dans laquelle on est. Et tous les sujets de ce dernier épisode d'Il était une fois l'homme, donc sorti en 1978, sont finalement tous développés dans la dernière série. Ouais. Il a bouclé son œuvre avec Il était une fois notre terre.
On a justement un message de Claude à ce sujet sur le mail franceinter.fr. Quel générique terrible que celui d'Il était une fois l'homme. Suis-je la seule, demande-t-elle, à être traumatisée par les dernières images montrant des mouvements de panique, la fuite vers une fusée, puis la vision de la terre qui explose, le tout sur une musique qui vous tord les boyaux. J'ai 43 ans aujourd'hui, je ressens toujours des frissons de terreur en regardant ces images.
Ah là là, c'est vrai, je me souvenais plus de ces images.
Ces témoignages, effectivement, aussi. Ouais, ouais. Comment les sujets étaient-ils choisis? Parce qu'il y a forcément des sujets à l'infini. Comment est-ce qu'il a choisi de faire des épisodes sur tel et tel sujet dans chaque série?
Écoutez, pour le début, évidemment, je n'étais pas là, loin de là. Mais Albert a toujours cherché d'abord et avant tout des anecdotes. Parce qu'avec les anecdotes, on donne des idées, des images aux enfants. Et ça marque.
C'est ce qu'il disait dans l'extrait. Hein. Il faut faire quelque chose de ludique, mais voilà, intéressant, mais ludique avant
tout. Ludique, exactement. Donc toujours à grand renfort d'anecdotes. Et il a cherché des anecdotes pour toutes ses séries.
Mais je savais pas que Collargol, c'était lui aussi.
Oui, c'est Albert Barillet, absolument. Ouais.
Alors il y a tout un livre qui raconte justement la saga de votre mari, au fond, toutes ses créations. Ça s'appelle Il était une fois la belle histoire de Procidis, donc c'est sa maison de production. Et c'est hyper intéressant, en fait, parce qu'on retrouve justement Aurel, tous les dessinateurs qui ont travaillé pour lui.
Surtout Jean Barbeau, le principal, c'est Jean Barbeau qui nous a accompagnés pendant les 7 séries, donc presque 30 ans, quoi.
Ouais. Voilà. Et donc,
Collargol, c'est la première expérience d'Albert pour les enfants. Et,
Qu'est-ce qui a changé?
Nous sommes en train de réserver une petite surprise au.
Ah bon?
Pour quand?
Un indice.
On en parlera.
Pour quand?
Pour bientôt.
Très bien. Bon, il faut le suivre où alors pour avoir la surprise?
Sur le site Hello Maestro. On fera. Il y a une chaîne YouTube aussi de Collargol.
Dernière question. Est-ce que finalement, il était une fois, ça vieillira jamais en fait? On pourra toujours le regarder même dans 50 ans?
Écoutez, 100 ans. Ce qui est bien avec Il était une fois, c'est que Albert a toujours validé, vérifié, archi-vérifié les informations qu'il donnait. Donc, les informations véridiques traversent le temps. Et si je peux juste dire que je me lance enfin dans une nouvelle série, Il était une fois. Et nous entourons d'un comité scientifique de 6 personnes avec des astrophysiciens, des historiens des sciences, des philosophes des techniques, etc. pour ne pas dire la moindre bêtise.
Il était une fois quoi, ça sera?
Il était une fois les objets.
Voilà. Et ça sera pour 2023, a priori, hein?
Absolument. Donc j'avais demandé à Mathieu de se joindre au comité scientifique. Il avait beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Parce que je sais que
Je suis pas scientifique. Donc, c'est ce que je vous avais dit. Je préférerais que vous fassiez appel à des scientifiques plutôt qu'à moi. Donc, c'est pour ça, hein.
Oui, mais quelqu'un de très, 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 très cultivé. Vous étiez parfait aussi.
Édouard Bergeon.
Non, mais quelle inspiration, le travail de Il était une fois. En fait, j'ai, à ma petite échelle, essayé d'être un enfant, en tout cas, d'Albert et de ramener mon travail à l'éducation, à la pédagogie. Ah ouais. Cultivons-nous, le livre, c'est des solutions, c'est de la pédagogie en fait. On plante des arbres, il y a un portfolio, un reportage sur des enfants qui plantent des arbres parce que c'est pour eux, mais c'est pour demain et après-demain, c'est pour créer de l'eau, de l'air. On les a arrachés, moi je les ai arrachés avec mon père sur les terres il y a des années, on les replante aujourd'hui.
Comment vous nous avez dévié du sujet pour parler de votre bouquin, vous êtes incroyable.
Mais non, mais c'est l'arbre de la vie en fait.
Dans Il était une fois notre terre, il y a plein d'enfants qui s'appellent les héritiers de la planète et on parle tous de ça, les héritiers de la planète sont nos enfants à qui on doit parler, qu'on doit éduquer, parce qu'après les enfants ils éduquent leurs parents.
Oui, et puis ils deviennent adultes.
Ouais.
Et ils
en tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Les DVD, les livres, la boîte de jeux,
les audiodramas maintenant.
Le Père Noël, quoi
je vais
faire.
En récupérer. Hein.
Voilà. Allez, vous restez avec nous, Hélène Barillet.
Merci.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Aurel, un roman graphique, on les adore, ça tombe bien, c'est chez Futurapolis. Quel genre d'animaux sommes-nous? Singes, au pluriel, évidemment. Il y a une petite discussion sémantique d'ailleurs sur le terme, c'est amusant, parce que vous avez préféré singe, alors qu'évidemment les spécialistes que vous avez rencontrés, qui sont primatologues, préfèrent le mot primate.
Exactement, oui, scientifiquement le terme primate est plus juste, c'est pour ça que j'ai tenu à m'en expliquer en avant-propos, parce que j'ai moi aussi fait relire le livre, enfin le manuscrit à des scientifiques, et notamment au conseiller scientifique du Muséum d'Histoire Naturelle, puisque le livre est labellisé par le muséum, donc il fallait qu'eux-mêmes vérifient que je racontais pas de bêtises. Ouais. Et en effet, une des discussions était celle-là, savoir si singe était le terme approprié. Alors ça, c'était très très rapidement éclairci. Non, ce n'était pas le terme approprié, mais j'ai tenu à le garder et je m'en explique parce que je pense que c'est un terme plus vernaculaire, plus populaire. Et même s'il n'est pas tout à fait juste, il parle à beaucoup plus de gens, que à beaucoup plus de potentiels lecteurs que le terme primate qui aurait pu en rebuter certains parce que d'emblée, il sonne un peu plus scientifique. Mmh.
Alors, vous avez, donc vous disiez tout à l'heure, vous avez un petit peu improvisé, mais si on doit résumer cette bande dessinée, c'est quoi? C'est toute l'histoire des singes du début jusqu'à aujourd'hui?
Ah non,
c'est
j'ai
quoi?
Pas cette prétention-là. Non. C'est finalement très très vite, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était d'interroger notre relation, nous humains, à ces autres primates, à ces autres grands singes. Et ce terme « autre », en fait, il est super important, que sont les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, etc. Et puis tous les autres primates, ce qu'on appelle les singes à queue, en disant, en nous ramenant à notre état d'animaux et à notre état de primates. Donc, c'était qu'est-ce qu'on... J'expose trois questions en introduction en disant qu'est-ce qu'on a à apprendre d'eux, est-ce qu'il y a des choses qu'on a directement à apprendre, et ça c'est l'exemple de la pharmacopée par exemple de
Sabrina Krief.
Qu'est-ce que on a à apprendre sur nous en les observant? Alors cette question-là est très 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 discutée au sein même des primatologues et des spécialistes, parce que a priori c'est évident que ce ne sont pas des images de notre de là où on vient, de notre passé, parce qu'ils ont évolué autant que nous en parallèle. Mais comme l'explique France Deval à un moment donné dans le livre, on peut faire des triangulations. S'il y a des comportements similaires entre des gorilles, des chimpanzés et les humains, on peut se dire que c'est quelque chose de commun et de très ancestral. Par contre, Vinciane Després va s'offusquer dès qu'on va essayer d'envisager d'observer les grands singes pour trouver une quelconque origine de nos comportements. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que, et je pense que c'est finalement ça que j'ai le plus développé et ce qui m'a le plus, moi, marqué dans tout ça, c'est qu'est-ce que notre façon de regarder les singes nous apprend sur nous-mêmes. Et en fait, c'est ça qui est fondamental, c'est-à-dire à quel point l'humain se pense supérieur et se pense en dehors de la nature.
Moi, je trouve qu'une des vertus, en tout cas, du livre, c'est de faire le point aussi sur la connaissance aujourd'hui en éthologie, hein, par rapport à ces animaux. Et vous reprenez aussi beaucoup d'études scientifiques qui ont été très marquantes, qui ont été vraiment, qui ont beaucoup de résonance parce qu'elles ont fait aussi avancer la connaissance sur les singes, par exemple sur les émotions. Et on peut écouter Franz Deval parler d'une expérience qu'il a eu lui-même avec les chimpanzés.
Le premier, c'était peut-être, j'étais encore étudiante à l'époque, où j'ai observé que les chimpanzés se réconcilient après un conflit. Il y avait une très grande bagarre entre deux chimpanzés, et ça s'arrêtait. Et 3 heures plus tard, je vois dans la colonie toute une commotion où tous les chimpanzés reviennent ensemble et ils sont autour de quelque chose, et il y a deux chimpanzés qui s'embrassent. C'était les mêmes deux chimpanzés qu'il y avait le bagarre. Par exemple, si dans une colonie de chimpanzés, il y a un des chimpanzés qui meurt, tout le reste est complètement silencieux, qui est pas normal pour les chimpanzés. Ils sont complètement silencieux. Il y en a beaucoup qui mangent pas pendant des jours. Alors ils sont très affectés émotionnellement.
Voilà, Franz Deval qui raconte cette affaire d'émotion. Et il y en a beaucoup d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des histoires incroyables que vous relatez. Ces singes, par exemple, qui sont très doués d'empathie, qui viennent au secours des autres quand il y a un accident, par exemple, dans leur groupe.
Alors tout ça, oui, c'est en effet, c'est débattu. Ben là, ce que vous racontez, c'est donc issu d'une vidéo que j'ai glanée. Alors non pas sur Internet, celle-là, puisqu'elle avait été, elle a pas mal tourné jusqu'à être diffusé au soir 3 sur France 3. C'est en Inde
un primate dans une gare
qui tombe, qui s'électrocute à une caténaire et qui tombe, et un de ses congénères va interagir avec lui. J'utilise interagir volontairement puisque toute la question est de savoir si c'est un singe sauveteur qui va sauver celui qui s'est électrocuté ou si c'est une interaction beaucoup plus banale. Et toutes ces questions-là sont passionnantes. Mais je me suis souvent servi de petites vidéo ou anecdote comme ça, vraiment en résonance avec ce que disait Albert dans la création de Il était une fois la vie, enfin Il était une fois de façon générale, de partir de l'anecdote pour ensuite aller interroger les spécialistes et pour mettre en lumière, mettre en perspective ces anecdotes.
On a un message de Laetitia qui vous écrit « Je vous salue Aurèle, les grands singes sont une passion depuis des années, je vais donc réserver votre album et vivant dans la campagne poitevine, j'écouterai. » Ah ben elle disait « J'écouterai avec attention, monsieur Bergeon. Ouais. » Moi j'avais une question à vous poser Aurèle sur vos dessins, parce que est-ce que vous avez l'habitude de dessiner des singes et surtout, je prends que celui de la couverture qui est un gorille, on dirait quasiment une photo, comment vous avez réussi à les dessiner aussi précieusement, avec autant de détails et de réalisme.
Alors la couverture, c'est un peu à part, puisque c'est un travail spécifiquement pour la couverture, c'est des peintures assez grandes.
Mais vous aviez l'habitude simplement de dessiner des singes ?
Dessiner des singes non humains, non. Je dessine des singes humains très, très fréquemment.
Nicolas Sarkozy, par exemple.
Oui, ou plein d'autres.
Hein. Mais c'est vrai, il a fait deux albums sur Nicolas Sarkozy, donc c'était un bon primate aussi à étudier.
C'était la première réflexion que m'a faite Franz Deval. La première fois que je l'ai vu 5 minutes pour lui dire que j'étais en train de faire ce livre et que j'aimerais beaucoup l'interviewer. Et il m'a dit vous dessinez bien les humains, mais reste à savoir si vous savez dessiner les singes.
Ah, oula, pression là.
Comment vous avez fait ? Vous êtes entraîné ? Vous êtes allé voir des singes ? Vous avez regardé des vidéos ?
Je me suis un peu rendu dans certains zoos. Bon, même si je suis pas un grand fan des zoos, mais c'est quand même une expérience. Et puis c'est un lieu idéal pour dessiner de façon tranquille des animaux sauvages. Et puis beaucoup de documentation, comme on le ferait pour n'importe quel BD, et même quand on a besoin de dessiner certains humains, on a besoin de documentation pour un uniforme, une tenue, une façon de faire un mouvement, etc. Et là, c'était la même chose. Et il a fallu réinventer se recréer une base de données, de raccourcis, d'évidence graphique pour que un chimpanzé ressemble à un chimpanzé qui marche ressemble à un chimpanzé qui marche, etc.
Édouard Bergeon, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais il y a même des singes qui font de la cuisine quasiment, hein. C'est en tout cas qui préfèrent les patates douces salées.
Exactement. Hein, ouais.
Voilà, c'est dans le bouquin d'Aurèle.
Ouais. C'est ce qu'on appelle une tradition de certains singes qui ont découvert ça un peu par hasard et puis qui ont maintenu ça de génération en génération et qui continuent à manger des patates douces salées.
Non, je savais pas du tout, mais comme je suis un grand primate, moi j'aime ça et que j'aime tout.
Mais Sabrina Krief a aussi travaillé sur la question de ce qu'on pourrait appeler une sorte de cuisine, c'est-à-dire qu'ils mangent les chimpanzés mangent de la viande crue en l'accompagnant de certaines herbes ou certaines plantes sans que ça ait la question est de savoir si c'est purement gustatif, si c'est aussi pour éviter de choper certaines contaminations, de certaines maladies. Enfin voilà, il y a une association de mets différents dans un but particulier. Ouais.
C'est quoi d'ailleurs le plat préféré ? J'ai oublié de vous poser la question au primate Bergeon. Alors,
il aime tout le primate Bergeon.
Ouais. Mais il y en a un en particulier dont vous parlez dans le
fromage,
monde.
Je mets du fromage partout. Je me lève même la nuit en manger.
Ah bon ?
Ah oui.
Mais c'est pas la potée, la poitevine ?
La potée, le farci poitevin.
Le farci poitevin, pardon.
Ah oui, j'avais vu ça
dans le
part.
Monde.
Ouais,
cette
exactement.
Semaine,
c'est un plat de paysans avec les déchets, enfin les salades, les blettes qui montent dans le jardin. On met du lard, du pain, on fait cuire ça et puis on mange ça comme un pâté vert froid. Mais on mange ça aussi à des grandes occasions comme des mariages. Et voilà. C'est bien de chez nous, mais c'est super bon.
Très bien. Il y a pas la recette dans votre livre,
mais il y a plein d'autres recettes.
Ouais. Aurèle, est-ce que d'autres espèces pourraient vous intéresser pour un futur livre ?
Je sais pas, je m'interdis rien, mais mon histoire avec les singes date d'il y a très longtemps, même si c'était pas une passion au sens d'une recherche scientifique, mais c'est un peu ce qu'on entendait dans le son tout à l'heure sur Il était une fois, c'est-à-dire que dans le cas d'Il était une fois, c'était la série qui avait servi à ça. Et moi, c'est les ouvrages comme ça, les bandes dessinées me permettent de faire un peu ce que je n'ai pas fait à l'école, ce que je n'ai pas fait en faisant des études, ce que j'aurais pu peut-être faire. Mais moi, c'est moi qui l'ai décidé de pas faire des études, mais j'aurais peut-être pu continuer sur, j'ai fait de la biologie et tout ça, donc j'aurais peut-être pu continuer dans ce domaine-là, mais l'approche par le livre me permet d'être plus libre.
Et Baptiste Morisot a écrit dans la préface, cette BD sur les singes n'est pas pour les enfants et c'est important de le préciser. Alors pourquoi ?
Parce que ce qu'il explique, c'est que c'est trop simple de ramener les questions d'écologie, d'environnement à des questions sentimentalistes et enfantines. Et que là, justement, c'est la question autour de ce que sont les singes, ce que sont les primates, ce qu'ils représentent, c'est des questions qui doivent nous concerner tous pour les primates, mais pour nous aussi. C'est-à-dire, ça dans la thématique de Baptiste Morisot, qui est de parler du vivant et des vivants et de nous remettre au cœur du vivant. C'est une question qui concerne les enfants, bien sûr, mais aussi les adultes.
Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Aurel. Singe, donc au pluriel, quel genre d'animaux sommes-nous? C'est cette BD qui paraît donc chez Futurapolis, ce roman graphique, hein, c'est comme ça qu'on doit dire.
Oui, documentaire graphique.
Voilà. Cultivons-nous, Édouard Bergeon, mieux manger, bien manger avec les paysans d'aujourd'hui, c'est aux éditions Les Arènes. Et puis pour tous les amoureux d'Il était une fois, il y a tout ce qu'il faut, DVD, livre, boîte de jeu, on a mis tout ça en lien sur le site de La Terre au Carré. Merci beaucoup à tous les trois, passez un bon week-end.
Merci
à vous. Bon week-end Camille.
Bon week-end tout le monde, à lundi.
Merci.